Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du commentaire de la paracha par le grand rabbin Avraham Harold Weiss sur Radio Judaïka Strasbourg. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Ah, le soleil est au rendez-vous. En plus, ça tombe bien. Nous lirons demain deux parachas, celle de Nitzavim et de Vayeler. L'allumage des bougies de ce Shabbat, ce sera selon le calendrier à 19h39, mais on pourra allumer les néorotes du Shabbat à partir de 18h37, la fin du Shabbat demain à 20h44, des horaires uniquement pour Strasbourg et sa région. Et comme chaque semaine, on va souhaiter un refouah shelema à tous nos malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Monsieur le grand rabbin, on va commencer par, donc, comme chaque semaine, le résumé des deux parachas.
Alors un résumé, Jean, qui va être particulièrement court cette semaine, puisque nous, bien que nous ayons deux sidrotes couplées, celle de Nitzavim et celle de Vayeler, eh bien ces sidrotes sont extrêmement courtes, elles abordent un thème commun, qui est celui des dernières recommandations de Moshe au peuple d'Israël. Vraiment, Moshe est à la fin de sa propre histoire.
Vous dites recommandation par remontrance.
Il va quitter le monde. Alors, ce qu'on peut entendre aussi par des remontrances, vous faites allusion sans doute au début de la paracha de Nitzavim, notamment, où il y a une alliance qui va être scellée entre Dieu et le peuple d'Israël, bien sûr au travers de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Et dans cette alliance, eh bien, il y a certaines remontrances aussi qui font un peu écho à celles que nous avons lues la semaine dernière. Faudra comprendre pourquoi est-ce qu'on est revenu sur des remontrances qui ont déjà été a priori prononcées de manière particulièrement pénible et à la fois solennelle dans la paracha de Kitavo. Mais nous assistons en tout cas au dernier moment de la vie de Moïse. Et donc il y a également la passation de pouvoir avec son successeur. Et voilà, on voit qu'on arrive vraiment au bout d'une histoire qu'on va bientôt conclure, au moment de la fête de Simchat Torah, sans nous rappeler que vraiment là, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, et pour mieux, bien sûr, recommencer la lecture de Bereshit, parce que vous le savez, chez nous, il n'y a jamais de fin. Dès qu'on conclut un sefer, on recommence. Voilà, c'est une boucle qui n'a pas de fin et qui nous permet chaque année de redécouvrir le texte, de le réapprofondir et de se le réapproprier.
Pour info, les Ashkenazim commencent dimanche, je crois, les Slichot pour Rosh Hashanah, c'est ça?
Tout à fait. Voilà. On a pris un peu de retard sur nos amis Sfaradim, comme chaque année. Et donc, les Ashkenazim commenceront à partir de dimanche matin, voilà, la récitation des Slichot, juste avant la Tfila du matin, avec une journée de dimanche. J'en profite donc, pour rappeler qu'elle est, c'est totalement indépendant du concept des Slichot, mais qui a été choisi il y a maintenant plus de 70 ans par le grand rabbin Kaplan, le grand rabbin de France de l'époque, pour être cette première journée donc, des Slichot chez les Ashkenazim, qui donc débute toujours un dimanche, pour être la journée du souvenir de nos déportés, de ceux qui n'ont ni sépulture, ni véritable date de Yortzeit, puisqu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils ont été assassinés. Et donc la date qui avait été choisie à l'époque pour honorer leur mémoire, et cette date du premier jour des Slichot dans les communautés ashkénazes, qu'on a l'approche de Rosh Hashanah et qu'il y a une tradition de se rendre dans les cimetières à ce moment-là, et d'où la tradition que nous avons perpétuée en Alsace de faire des cérémonies dans les différents cimetières juifs de la région.
Je crois qu'il y a une grande cérémonie
Il y en aura une particulière cette année. Chaque année, bien sûr, il y a une cérémonie à Cronenbourg, comme dans les autres cimetières. Celle de Cronenbourg, cette année, aura une connotation particulière, puisque nous en profiterons pour célébrer un sinistre anniversaire, qui est celui des 80 ans de l'assassinat des 86 victimes juives du Struthof, puisque vous le savez, le Struthof, qui était donc un camp de concentration, le seul camp de concentration nazi situé, établi sur le sol français, à seulement une heure de Strasbourg, même pas trois quarts d'heure de Strasbourg. Le Struthof, qui était un camp qui a principalement accueilli des prisonniers politiques. Il y avait parmi ces prisonniers politiques des juifs également, mais qui n'étaient pas emprisonnés en tant que juifs, mais déportés et internés en tant que prisonniers politiques. Mais une chambre gaz a été construite sur ce territoire. C'est la seule chambre à gaz qui existe sur le territoire français et qui a eu pour vocation, là aussi sinistre vocation, cette chambre à gaz, de mettre à mort 86 victimes venues spécialement par train d'Auschwitz afin de constituer, j'en tremble quand je le dis, une collection de squelettes juifs pour le non moins sinistre docteur Hirtz. Yes. Ouais, je ne sais même pas si on peut le qualifier de docteur. Et donc ces 86 victimes, on le sait, on a réussi à en récupérer donc certains restes qui ont été dignement enterrés au cimetière de Cronenbourg. Et donc on honorera leur mémoire cette année avec ce 80e anniversaire de leur assassinat.
Voilà, important de le dire. On va à la paracha concrètement. Alors, dans le début de la paracha, le tout début, il y a écrit « Vous tenez aujourd'hui, vous et vous tous devant Dieu, devant Dieu, votre Dieu. » J'ai une question à poser. Pourquoi cette formulation « tenez-vous » c'est pas une formulation habituelle.
C'est pas une formulation habituelle.
Ça veut dire quoi?
Alors, Nitzavim, c'est véritablement, comme vous l'avez dit, c'est vraiment se tenir droit, c'est se tenir debout. Vraiment, on insiste.
Pourquoi
sur
avant, ils étaient assis, couchés?
Alors, vous le savez, Moshe rassemble le peuple d'Israël à ce moment-là. Bien sûr, vous vous dites à juste titre, mais pourquoi insister sur cette posture finalement qui n'apporte pas grand-chose a priori au texte? Bon, ce qui nous importe, c'est que le peuple est rassemblé, on comprend cette idée d'unité, mais pourquoi insister sur cette posture, sur le fait qu'ils se tiennent debout? Et là, bien sûr, ça fait écho directement, j'imagine que c'est là que vous voulez m'amener, ça fait écho au fait de Rosh Hashanah, et ça c'est souligné bien sûr par nos maîtres, qui rappellent que ce n'est pas un hasard, cette parashat Nitzavim est toujours lue avant Rosh Hashanah, c'est tout simplement parce qu'elle nous invite déjà à réfléchir à la posture qui doit être la nôtre le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire se tenir devant Dieu, affronter en face ses responsabilités. C'est un jour où nous sommes jugés. Lorsqu'on est jugé, on ne se couche pas, on ne se détourne pas de la réalité que l'on doit affronter. C'est pour ça qu'on se prépare, parce que se préparer, c'est être prêt finalement à faire amende honorable ce jour-là. C'est dire à Kadosh Baruch Hu, de manière tout à fait transparente, nous avons pu commettre des erreurs, nous avons été capables de mettre le doigt dessus, nous avons été capables de les cibler, nous avons été capables de travailler sur ces erreurs, et nous nous engageons à ne plus les réitérer. Et donc c'est avant tout, je pense, c'est ce qui doit être d'une manière générale dans la vie d'un juif, voilà, la posture constante, c'est être capable toujours de se tenir debout, c'est-à-dire affronter la réalité en face. Et nos maîtres, d'ailleurs, nous le rappelle, je pense notamment au Rav Zevin, qui rappelle souvent que ce qui fait la différence entre un homme et un animal, justement, l'homme, c'est sa posture justement de bipède, hein, principalement, alors que l'animal, même les animaux qui se tiennent, qui peuvent aussi se tenir sur deux pattes, voilà, ne sont pas forcément faits pour se tenir sur deux pattes, ce sont des quadripèdes. Et la différence donc, entre un homme et un animal, c'est que l'animal, naturellement, a le regard qui est tourné vers le sol. Sa posture naturelle fait que lorsqu'il est à quatre pattes, ses yeux regardent vers le sol, donc vers la matérialité. Il aspire finalement à une certaine forme de matérialité. Et il y a aussi peut-être le fait de ne pas être capable de rendre compte de ses actes et d'affronter la réalité. Un homme, lui, naturellement, de par sa posture d'homme, il se tient debout. C'est un bipède. Un bipède, lorsqu'il se tient debout, sa posture naturelle n'est pas de regarder vers le sol, mais elle est de regarder droit devant, voire même d'être capable de lever la tête. C'était déjà un deuxième niveau, on va dire, dans l'évolution de l'homme. Mais en tout cas, au moins, d'être capable de regarder en face, de ne pas regarder le sol. Regarder en face, ça veut dire accepter pleinement sa condition et accepter parfois aussi de ne pas être à la hauteur. Mais voilà, l'essentiel étant de pouvoir rectifier le tir et de reconnaître ses erreurs.
Alors, dans cette paracha, toujours, ce qui est intéressant, c'est que on dit tous, y compris les enfants qui n'ont pas de majorité religieuse, devront être présents. Est-ce que c'est par de là qu'on a un principe que chaque juif, quel qu'il soit, doit être faire partie d'un groupe et de faire aussi sa part de travail?
Tout à fait. Alors là, vraiment, ce qui est mis au centre de cette paracha, au travers de ce grand rassemblement de Nitzavim, c'est vraiment la volonté de montrer que nous sommes à la fois tous responsables les uns des autres. Donc c'est ce grand principe de Kol Yisrael Arivim Zelazé. Il y a vraiment une responsabilité collective, et c'est par cette responsabilité collective qu'on cherche ici à marquer les esprits, que personne ne cherche à se dédouaner, voilà, en pensant que son action ou son inaction n'aura absolument pas de conséquences sur le reste du peuple. C'est faux. Voilà, à partir du moment où quelqu'un se montre inactif, ou alors qu'il est dans une forme d'action mais destructive, eh bien il génère forcément des conséquences sur l'ensemble du peuple. Et c'est un petit peu ce qui est au centre de la réflexion ici dans cette parashat Nitzavim, où c'est l'ensemble du peuple qui est rassemblé. On nous dit vraiment toutes les classes sociales sont rassemblées.
Il y a tout le monde.
Tout le monde est mis au même niveau, et c'est pour ça que ça fait écho à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, finalement, qu'on soit un homme important, qu'on soit un homme entre guillemets simple, on se présente de la même manière finalement devant Dieu. Personne ne peut échapper à ce jugement, c'est inéluctable. Hein. Il y a pas, on ne peut pas utiliser ni son argent, ni son influence, ni son pouvoir pour se dérober de ce jugement. C'est un rendez-vous incontournable. Et donc, il va falloir être capable, encore une fois, je l'ai dit, quelle que soit sa position sociale, de rendre des comptes à ce moment-là. Et le fait de faire participer tout le monde sans exception, c'est pour montrer aussi l'importance de pouvoir s'imprégner déjà de ses valeurs, très, très, très jeune, l'importance aussi du chinour, de l'éducation. On sait que c'est quelque chose de fondamental chez nous.
Alors, on n'en parle pas souvent, mais on parle de l'idolâtrie. Souvent, on ne comprend pas très bien les dangers de l'idolâtrie. On voit les Indiens, les Hindous, ils s'en portent très bien. Et dans une question plus générale, en tant que grand rabbin, aujourd'hui, on est des fois idolâtres des chanteurs, des joueurs de football. Est-ce que ça aussi, c'est considéré comme de l'idolâtrie quand on aime un joueur plus que tout, ou un chanteur ?
Alors c'est vrai que vous êtes un peu vite en besogne, vous extrapolez un petit peu par rapport à ce que nous dit donc la Torah, ses nombreuses mises en garde d'ailleurs par rapport à toutes ces fautes qui concernent l'idolâtrie, et avec lesquelles on n'est souvent pas très à l'aise, tout simplement parce qu'on ne comprend pas cet attrait incroyable qui pouvait exister à l'époque pour l'idolâtrie. Alors, il y avait un certain nombre de réponses à cela. Là, notamment le fait que ce mauvais penchant et cette attirance naturelle qui pouvait exister chez une personne pour l'idolâtrie, on le sait, a été annulée et donc n'existe plus aujourd'hui chez nous. Donc, forcément, c'est un peu difficile d'imaginer, puisque ce Yetzer Hara n'existe plus, de comprendre ce que pouvaient ressentir les gens pour cette idolâtrie. Mais effectivement, l'idolâtrie, vous l'avez dit, Jean, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a un verset intéressant, c'est le verset qui va introduire ce passage consacré donc à l'idolâtrie, à la mise en garde contre l'idolâtrie et contre cette forme de déviance, qui est le verset 16 de notre parasha, au début de notre parasha, et qui nous dit « Vatiru et shikutseem ve et giluliem, etz va even kesev eza vacher imaem ». Donc vous avez vous, shikutseem, leurs abominations, leurs idoles, etz va even, de bois et de pierre, kesev eza, d'argent et d'or, acher imaem, qui était parmi eux. Et vous avez remarqué qu'on va un peu crescendo finalement ici dans les matériaux qui sont cités. On parle au début de quelque chose de totalement répugnant, et puis on nous parle de bois, on nous parle de pierre, on nous parle d'argent et d'or. Et donc il y a un commentaire ici assez intéressant, et c'est peut-être une autre définition d'idolâtrie, qui nous dit que ce qui peut apparaître au départ comme totalement répugnant pour un homme, s'il ne prend pas garde à s'imposer vraiment des limites et à se mettre des barrières, eh bien très rapidement, ce qui était au départ répugnant peut devenir quelque chose d'acceptable, de banal, et qui, d'une banalité, eh bien, peut même par la suite se transformer en quelque chose d'attrayant. Et c'est cette lecture du verset que l'on peut avoir. C'est-à-dire que ce qui au début chikutseem va devenir avec le temps, lorsque l'on laisse s'installer une certaine forme d'insensibilité, eh bien, ça va devenir etz vaeven. Et si on continue à laisser cette insensibilité s'installer et gagner du terrain, eh bien, ce qui était etz vaeven, donc a priori des choses sans grande valeur, eh bien, peuvent se transformer en kesef vezav. Donc cette lecture du verset nous dit qu'en réalité, on parle de la même chose. On parle exactement du même produit de départ qui simplement va évoluer par rapport au regard. Bien sûr, ce n'est pas le pshat. Hein, vous avez compris, Jean, que le pshat, c'est de citer plusieurs types d'objets. Mais moi, je propose une deuxième lecture.
Quand moi, je suis, par exemple, un fou d'un joueur de football ou d'un chanteur ou d'un rabbin ou je ne sais quoi, est-ce que c'est considéré comme l'idolâtrie où on arrive à trouver une sortie?
Considérer cela comme de l'idolâtrie au sens propre du terme, il faudrait attribuer des pouvoirs particuliers à ces personnes que l'on idolâtre. Mais on peut effectivement comprendre qu'il y ait d'autres formes de travaux étrangers, de services étrangers qui puissent se rapprocher de l'idolâtrie par le fait justement de ne plus être capable finalement de contrôler Voilà, les sentiments que l'on peut avoir pour quelque chose et de donner une importance complètement, on va dire,
pour
surdimensionnée
vous,
à quelque chose.
C'est un peu d'idolâtrie quand on est fan d'eux.
On peut tous être fan de quelque chose. On est tous fans de musique, on peut tous être fan, mais voilà, encore une fois, l'essentiel est d'avoir toujours cette capacité à garder la priorité des valeurs. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'attribuer des pouvoirs. Là, lorsqu'on parle d'idolâtrie, ça, c'est, voilà, au sens propre du terme ici, il s'agit d'accorder des pouvoirs divins à des objets ou à des animaux, voire même à des êtres humains.
On passe au chapitre 30, verset 6, où l'Écrit dit que Dieu circoncire le cœur d'Ebné Israël. Circoncire, c'est évidemment un terme particulier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire fermer le cœur, explication compliquée, ou circoncire, quand on dit qu'on circoncit quelqu'un, on le rend homme, on le rend quelqu'un de fini. C'est quoi l'explication exacte ? De ce terme. Pourquoi ?
Alors, pour le terme de, oui, effectivement, le terme de circoncision ici n'a pas été choisi au hasard. Vous l'avez dit vous-même. Lorsque l'on retire en principe la horla, on retire un élément. Voilà, on retire un élément qui obstruait un petit peu ici quelque chose. C'est un petit peu la même chose ici dans le cœur. Il peut y avoir des natures qui sont des éléments qui sont de nature à obstruer finalement l'homme dans sa réflexion, dans son élan de, encore une fois, de générosité, de bienveillance. Et donc, lorsqu'il y a ici une incision littéralement qui est faite, mais même c'est enlever finalement quelque chose. Ici, le fait d'être mâle, c'est d'enlever en quelque sorte un corps ici qui est un corps étranger.
Donc, bien,
c'est ça, c'est
cœurs,
sur le cœur finalement,
dire...
c'est lui donner la possibilité, voilà, de s'exprimer sans être obstrué par tout un tas d'émotions négatives ou de sentiments négatifs. Et bien sûr, vous l'avez compris, ici, le terme n'est pas choisi au hasard. Vraiment, la circoncision, on veut bien sûr faire le parallèle avec celui de la Brit Mila que l'on connaît, où il s'agit aussi d'enlever un morceau de peau de cette orla, voilà, de manière aussi à diminuer un petit peu ce yetzer hara naturel qui peut exister chez l'homme. On peut donc... transposer cette idée ici à celle de la Milat Alev.
D'accord. On va continuer parce que le temps file à une allure énorme. Ce qui est intéressant, c'est que vers la fin de la paracha, on dit Dieu choisit le bien et la vie, ou la vie et le bien. Du moment que Dieu choisit, on n'a plus, nous, tellement le choix. Alors... C'est bien, mais...
Alors, la fin de la paracha, voilà, là, vous faites allusion au dernier verset de la paracha, qui nous dit, ou Bacharta Bachaim, qui nous invite nous-mêmes à choisir la vie.
Ouais.
C'est une invitation que Dieu fait à l'homme à choisir la vie. Dieu nous dit tout simplement, Achaim ve'amavet natati lefanecha. Dieu dit, moi, je t'ai placé la vie et la mort devant toi. À toi de choisir le bon chemin, à toi de s'engager. Donc, ce n'est pas Dieu qui choisit à notre place, mais c'est
mais
bien
lui
nous
aussi après
qui
Dieu.
Choisissons. Dieu, bien sûr, Hachem, par définition, choisit la vie. Donc, il nous invite à suivre son chemin. Il nous rappelle que, Uchayecha vorech yamecha, que le fait d'écouter sa voix, que le fait de se coller en quelque sorte à l'exemple de Dieu et d'essayer de suivre ses traces, eh bien c'est quelque chose qui mène nécessairement à la vie. Donc on nous dit, tu as la possibilité ou de vivre ou de mourir en quelque sorte. Et je rappelle qu'il peut y avoir, bien sûr, il faut bien comprendre ici que la vie et la mort, et on peut vivre tout en étant, tout en étant un mort-vivant en quelque sorte, c'est-à-dire une vie qui serait une vie vidée de son sens, voilà, n'est pas une vie au sens propre, au sens noble du terme. Donc ici,
c'est
choisir
quoi,
la vie ou choisir la mort...
Voilà, c'est quoi pour vous une vie ? Je veux dire, une personne qui... qui vit et qui
je vais vous donner un exemple qui est rapporté par Rav Simcha Bounam de Pshisra, justement à propos de ce dernier verset de la Torah, et qui nous dit qu'un homme peut parfois avoir l'impression de vivre et de prendre du bon temps sans se rendre compte qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire, voilà, lui cause énormément de mal. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du fait de fumer. Enfin, on a tout un tas de choses où l'homme... aujourd'hui, les études nous montrent que ces choses-là causent du mal à l'homme et qu'elles sont des sources de... problèmes de santé extrêmement sérieux. Et pourtant, eh bien, un homme peut avoir l'impression de se faire du bien lorsqu'il va consommer ses aliments ou passer du temps à justement essayer un petit peu de se détendre au travers de ces différents éléments que l'on vient de citer, alors qu'en réalité, eh bien, il est à ce moment-là en train de se faire du mal. Cette idée, voilà, transposée aussi sur un plan spirituel et psychologique peut être exactement identique. Donc on peut vivre en réalité, mais avec une vie qui est dénuée de tout projet, de tout sens, de toute orientation, et donc en réalité être en train, alors qu'on pense qu'on court survivre. Finalement voilà, dans une vie qui est extrêmement dynamique et énergique, eh bien, en réalité, être en train de courir directement à sa mort. Je rappelle aussi qu'au travers des deux termes qui sont employés, Jean, dans le dernier verset, Chayecha Vorech Yamecha, qui ont l'air d'être une répétition, une redondance, hein, puisque on nous dit que essayer d'écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, de se lier à ses chemins, eh bien, c'est Chayecha, c'est ta vie, et Orech Yamecha, et la longueur de tes jours. Alors, a priori, c'est exactement, on répète la même chose. Voilà. On nous promet finalement une longévité, c'est tout. Mm. Ça veut dire la vie et la longueur des jours. Comme souvent, voilà, ça fait référence à ces deux vies que nous connaissons, c'est-à-dire la vie dans ce monde-ci et la vie dans le monde futur. Je rappelle que c'est un élément finalement de base dans la réflexion d'un juif, c'est que voilà, nous le savons, ce monde-ci n'est qu'un passage vers le monde futur. Et donc se préoccuper uniquement de ce monde-ci sans se préoccuper du monde futur serait bien évidemment une erreur. Donc ce qu'on nous promet, c'est pas simplement de bien pouvoir vivre dans ce monde-ci, mais si l'on veut également bien pouvoir vivre dans le monde futur, dans le monde éternel, les choses, encore une fois, se préparent. Et je pense que le propre, finalement, de l'intelligence, c'est le sens de l'anticipation. Voilà, on nous le dit, « Ezehu chacham haroet anolad », quel est l'homme véritablement sage ? La définition chez nous de la sagesse, c'est pas forcément l'accumulation des connaissances, c'est pas forcément la capacité de discernement, mais c'est avant tout la capacité à voir loin. C'est un homme qui est capable d'anticiper, et c'est un homme qui est capable de préparer les choses. C'est ça, c'est là que l'on reconnaît véritablement un signe d'intelligence chez une personne. Alors, de sagesse, plus exactement, plutôt que de parler d'intelligence, parler de sagesse.
Alors je vais être sage, je vais anticiper. Je vais vous poser une question que vous n'allez pas aimer, mais c'est pas grave. Moshe arrive à 120 ans.
Oui.
S'il fallait, en 3 ou 4 qualificatifs, dire qui était Moshe, ce serait quoi ?
3 adjectifs, c'est très difficile. C'est une question, effectivement. Oh non, elle est sympathique, votre question. C'est juste qu'elle est particulièrement difficile, parce que comment résumer la vie du plus grand homme
on peut dire,
en 3 qualités tout simplement, on va s'inspirer de ce que nous dit la Torah. Anav, il est un, bien sûr, puisque c'est comme ça que la Torah le définit. Donc, bien sûr, incontournable, ce qualificatif de Anav, de humble, de modeste. Donc, je le récupérerai. Je dirais donc humilité, dévouement. Peut-être que voilà, ce qui qualifie Moshe aussi, c'est le dévouement incroyable qu'il a eu pour le clan Israël au détriment de sa propre personne et de sa vie familiale. On peut rajouter droiture. Moi, je citerai. J'ai dit donc humilité, dévouement et je dirais peut-être abnégation.
Voilà. Vous avez réussi à répondre à la question.
J'ai réussi à répondre à la question, mais c'est vraiment, vraiment sur un pied.
Alors, sur deux pieds, le successeur de Moshe, c'est Yoshua, Josué en français. C'est le bon choix ? Est-ce que...
Si Moshe l'a choisi, oui, c'est que c'est le bon choix. Il a été choisi, d'ailleurs, sur les conseils d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas par hasard que Moshe a été choisi. On lui a dit, c'est Yoshua qui doit succéder à Moshe. Ish Asher Ruarbo, nous l'avions lu dans des parachutes précédentes. Un homme, Ruarbo, donc qui a investi du souffle. Quel est ce souffle vivant ? C'est un homme qui est capable de voir, comme nous le disent nos commentateurs, qui est capable d'aller à la lechet, Beruar Shelkol Echad Vechad. C'est un homme qui est capable de prendre chaque personne comme elle est, de comprendre la sensibilité de chaque personne, de comprendre les attentes de chaque personne. C'est ce que l'on attend d'un dirigeant, finalement. C'est de ne pas avoir une autorité, finalement, qui écrase le peuple et ses fidèles, mais au contraire d'être capable, et parfois par un message, c'est tout le génie, on va dire, d'un grand dirigeant, c'est qu'au travers d'un même discours, je suis capable de parler à chacun. Alors moi, j'avais... un maître à l'école rabbinique qui était donc aussi mon directeur, qui nous disait que ce qui prend des années, peut-être toute une vie, et ce qui va véritablement, à son sens en tout cas, faire la grandeur d'un rav et d'un maître, c'est la capacité qu'il aura lorsqu'il va s'adresser à ses fidèles au travers notamment d'un Dvar Torah ou d'une une sicha de moussar, une discussion de pensée juive ou d'éthique juive, c'est la capacité qu'il aura au travers d'un même discours, d'un même Dvar Torah, à pouvoir toucher chacune des personnes qui se trouvent dans la salle, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de pratique religieuse, quelle que soit la sensibilité, voilà, être capable de pouvoir s'adresser à chaque personne et de donner l'impression, c'est ce qu'il nous disait, de donner l'impression à chaque personne que je m'adresse uniquement à elle. Voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est une certaine forme de génie que Moshe avait, que Yehoshua aussi avait. C'est pour cette qualité que Yehoshua a été désigné, parce qu'il était un homme capable de parler justement à chacun et capable, à chaque fois qu'il avait une prise de parole publique, de donner l'impression à chacun qu'il parlait exclusivement pour cette personne et pas pour une autre. Et donc Yehoshua, bien sûr, c'est le bon choix. À part ça, il a montré sa fidélité absolue en Moshe Rabbeinu, et c'est un homme qui avait, je parlais tout à l'heure d'abnégation et de courage aussi. Yehoshua n'en manque pas. D'ailleurs, Moshe va lui dire, courage, c'est un mot qui va revenir plusieurs fois dans cette paracha, parce qu'il faut du courage, bien sûr, il faut du courage, sans quoi, avec toutes les difficultés qui se sont présentées à Moshe Rabbeinu et que Yehoshua va connaître, notamment au moment de la conquête, on peut rapidement abandonner la mission si on n'est pas capable justement de faire preuve de ce courage. Chazak
v'ematz. Jusqu'au dernier moment, Moshe continue à donner des recommandations au peuple. C'est-à-dire qu'il n'a pas confiance en son peuple ?
On pourrait l'entendre comme ça, c'est vrai. On a l'impression que jusqu'au dernier moment, il va continuer à donner des recommandations. Jean, vous savez comment se comportent les parents, notamment les mères juives, et les pères juifs, ceux qui adorent leurs enfants, qui sont très protecteurs. Voilà, on le sait. Lorsqu'ils vont envoyer leurs enfants en colonie de vacances ou même juste traverser la rue pour acheter du pain, et ben on va faire des recommandations et sois prudent et fais attention et regarde bien avant de traverser. Et puis lorsque finalement, après avoir fait plusieurs recommandations à l'enfant, on va enfin lui ouvrir la porte et le libérer pour qu'il aille accomplir sa mission, hop, on va aller sur le balcon et on va ouvrir la fenêtre, et puis avant même qu'il traverse la route, on va encore recommencer à redonner quelques recommandations. C'est comme ça, lorsqu'on aime, on fait des recommandations parce que on souhaite que l'autre puisse réussir, on souhaite lui éviter toute embûche. Et donc, bien sûr, il ne faut pas voir dans ces recommandations de Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin, un manque de confiance dans le peuple d'Israël. Mais au contraire, je crois que c'est un élan d'amour absolument incroyable. Et Moshe, jusqu'à son dernier souffle, tient absolument à pouvoir donner à ce peuple tout ce qu'il peut lui donner en matière d'expérience, en matière justement de recommandations ici positives. Non pas, encore une fois, pour l'écraser, non pas pour lui faire peur, non pas pour le menacer, mais tout simplement parce qu'il souhaite que ce peuple puisse réussir et qu'il puisse continuer la mission qui est la sienne autour de Yehoshua.
Il nous reste une minute pour nous parler d'un sujet. On parle d'un cantique à la fin de la paracha, mais on ne dit pas que c'est
Alors c'est l'introduction à Azinu. C'est l'introduction, parce que Azinu va suivre, donc très logiquement,
mais
bien sûr.
Mais c'est quoi ce cantique?
C'est Azinu, c'est un cantique, on le sait, on en parlera sûrement la semaine prochaine. C'est un cantique à Azinu qui est très énigmatique et dans lequel, on va donner un certain nombre d'informations, un certain nombre d'éléments. C'est ce cantique, clairement, d'après la totalité des commentateurs, des Mefarshim, qui est introduit tout à la fin de notre paracha.
Mais pourquoi il est
Lorsque dans ce dernier verset, on va faire, effectivement, comme vous le rappeliez, Jean, c'est l'avant-dernier mot de notre paracha, Shira Azot, lorsque Moshe parle littéralement aux oreilles du Klal Yisrael. Donc il y a vraiment une volonté ici de transmettre et de faire en sorte que ce message pénètre chaque membre du Klal Yisrael, et à Shira Azot, ce chant jusqu'à sa fin. Et donc c'est une introduction, puisque à Azinu, immédiatement dans le verset d'après, on introduit cette cantique écrite de manière très spéciale dans la Torah. On reviendra sur donc le côté, je l'ai dit, à la fois énigmatique et à la fois extrêmement puissant de chacun de ces versets et de chacune de ces recommandations.
Voilà, merci Monsieur Gravin, courage pour dimanche. Je crois que vous avez un long chemin à faire.
Un marathon.
Shabbat shalom, merci à la rédaction, puisque c'était aujourd'hui Thomas qui était avec nous. Et à vous tous et à vous toutes, Shabbat shalom. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech, prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for